Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Simon Lessard de la revue et magazine Le Verbe. Nous parlions hier de la différence entre fragilité et vulnérabilité. Aujourd'hui, mon nouvel invité distingue l'isolement de la solitude dans un contexte sanitaire qui renforce le premier au détriment de la seconde. Par ailleurs, que nous disent la science, la sagesse judéo-chrétienne et Dostoïevski, le romancier russe, à ce sujet? Mais tout d'abord, Louis Bouchard nous propose sa chronique économique et évoque la dernière mode en matière de gestion, une mode appelée ESG et qui consiste pour une entreprise à tenir compte de trois facteurs. E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Maintenant, est-ce une énième lubie de gestionnaire ou une préoccupation durable? Louis, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
Alors écoutez, comme d'habitude, on va commencer avec trois nouvelles brèves, j'imagine. Mais oui. Le ESG, donc c'est le, mais juste un mot sur le ESG, ça c'est quelque chose qui c'est le dernier,
la
oui, dernière tocade ou quoi?
Écoutez, moi j'ai plus les journaux économiques et puis on en parle depuis un mois. C'est un peu le nouveau mantra, pour ainsi dire.
D'accord.
Lorsque j'ai commencé à regarder ça, je me disais, ben moi je connais ESG aussi comme étant l'acronyme de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Vous savez, l'École de gestion de l'UQAM, ESG,
oui.
Voilà. Mais on doit aussi enseigner l'ESG. Donc, bon, ces préoccupations-là.
Professeur de ESG à l'USG, c'est clair, oui.
Donc,
bah écoutez, bon, commençons simplement avec trois nouvelles brèves, alors.
Oui, ben on a appris hier que le confinement, ça avait du bon, tout au moins pour la Société québécoise de cannabis, la SQDC, qui a multiplié ses profits par deux au troisième trimestre, tandis que son réseau a également doublé de taille par rapport à la même période l'an dernier. La société a fait un bénéfice de 23,3 millions de dollars pour le trimestre. Là, ça, c'est juste trois mois.
Pour trois mois seulement.
Oui, terminé le 2 janvier, période au cours de laquelle les ventes ont totalisé 173 millions de dollars quand même, là, exprimé en volume. Les ventes réalisées en succursale puis sur le web, parce qu'on l'oublie, vous pouvez commander aussi sur le web, ça atteint 28 254 kilos de cannabis. Là. Ça, monsieur, ça commence à faire pas mal de potes, comme on dit.
Donc, les 2000 $ de Trudeau ont vraiment bien servi.
Oui, exactement. Donc, c'est une société qui est en expansion.
Oui.
11 nouveaux points de vente ont ouvert leurs portes durant le dernier trimestre. Bref, c'est payant, la distribution du pot. Ça, on le savait, le monde interlope occupait déjà ce créneau-là. À l'époque, moi, je me montrais assez critique lors de la création de la SQDC. Encore aujourd'hui, bon, j'y vois un pas de plus vers l'État souteneur, parce qu'il occupe une place de choix, je dirais, dans nos vices, là, l'alcool, le jeu de hasard, maintenant le pot, à quand les bordels étatiques?
Imaginez-vous, j'espère qu'il y a des gens qui vous écoutent, Louis Bouchard, vous serez un conseiller en la matière.
Oui, c'est ça, souteneur, fonctionnaire.
Ça paye.
Vraiment, bon, si on pose la question, est-ce vraiment la mission de l'État de se mêler de cela? Mais bon, il faut dire que les profits de la Société québécoise du cannabis sont par ailleurs entièrement versés au gouvernement du Québec, puis réinvestis notamment en prévention, puis en recherche en matière de cannabis. Donc,
quand même, c'est rassurant, ça.
Voilà. Deuxième nouvelle, l'entreprise montréalaise en formation virtuelle, CAE, ça c'est l'acronyme pour Canadian Avionics and Electronics, qui a été fondée dans les années 50 à Montréal, qui est encore sur Côte-de-l'Est. Quand on prenait la voiture pour aller à l'aéroport, bon, on fait plus ça depuis un an, là, mais on passait devant une grande usine dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ils ont annoncé hier qu'ils faisaient l'acquisition des activités de formation militaire de L3Harris, une entreprise basée au Texas, pour 1,35 milliard de dollars canadiens.
C'est d'argent.
Donc ça va permettre à CAE de doubler sa taille dans ses activités de formation militaire aux États-Unis. Donc CAE est surtout connu, pour ceux qui se souviennent de ça, il faisait des simulateurs de vol. Donc, vous savez, un pilote d'avion, avant de prendre le contrôle d'un avion, il s'essaye un peu sur un simulateur, comme si s'il arrive quelque chose, il démolira pas un avion à 40 millions de dollars. Donc, maintenant, ils offrent de la formation. Donc, ils offrent la totale, pour ainsi dire. Donc, et ils vont faire la même chose pour les pilotes militaires. Donc, ça fait du sens, selon le président de la compagnie, Marc Parent. Ça veut dire aussi que le secteur de la formation formation militaire va maintenant représenter environ 50 % du chiffre d'affaires de CAE. En plus, bon, la Caisse de dépôt et de placement va devenir le plus important actionnaire de cette compagnie-là. Comme on le disait, il y a une certaine complémentarité entre les activités de CAE qui fait de la formation de pilotes civils et des activités de formation militaire de
Mais pardon, Louis Bouchard, mais de tremper dans le militaire, je ne sais pas très... Au Québec, on se targue d'être vert, vertueux, oui. Propre et tout ça.
C'est pas glorieux, je dirais, mais c'est un secteur qui a ceux des revenus stables. Habituellement, le Pentagone, oui. Ça paye, mais c'est surtout en expansion. Bon, est-ce qu'il va y avoir des retombées intéressantes au Québec? On ne sait pas trop, mais oui. on va suivre ça pour vous. Donc,
troisième nouvelle.
Bon, ben, écoutez, Jean-Philippe, vous le saviez peut-être pas, mais les temps sont durs pour les grands investisseurs parce qu'ils sont à court d'idées. Vous connaissez
tous. Ils n'ont que quelques milliards avec lesquels jongler, mais ils ne savent pas comment jongler.
Ils ne savent pas comment. Exactement. Vous connaissez tous le légendaire Warren Buffett. Il a publié dimanche sa fameuse lettre aux actionnaires.
Ah oui. Que tout le monde lit. Hein?
Oui, c'est ça. Si vous lisez l'anglais, allez sur le web, ça fait seulement 14 pages. Il y en a qui examinent ça comme si c'était de la parole d'Évangile. Ils font l'exégèse, ils veulent savoir où est-ce qu'il s'en va, Warren. Mais là, cette fois-ci, ils sont un peu déboussolés parce que Warren, il trouve que les taux d'intérêt sont trop bas. Le coût des compagnies qu'il penserait acheter, il est trop élevé. Puis, en gros, il est à court d'idées. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il va remettre l'argent aux actionnaires. L'an dernier, sa société Berkshire Hathaway a racheté pour 25 milliards de dollars états-uniens de sa propre entreprise.
Attendez, je comprends. Louis, excusez-moi, moi je ne suis pas millionnaire. Je ne suis pas milliardaire, ni millionnaire, ni rien du tout. Mais je veux dire, j'ai une entreprise qui a fait de l'argent, qui a fait des profits, et je rachète mes actions. Je ne comprends pas la logique.
Bien sûr, vous allez comprendre. En rachetant vos actions, ça fait moins d'actions en circulation et ça fait un profit plus élevé par action. C'est mathématique. Donc, vous retirez. Donc, ça permet aussi, je dirais, c'est aussi une passe comptable. Alors, quand on ne sait pas quoi faire, ben, on rachète ses actions. Historiquement, Warren Buffett, à une époque, fustigeait ses présidents d'entreprise qui n'avaient aucune imagination puis qui rachetaient leurs propres actions au lieu d'investir dans du nouveau. Donc, mais il a pris goût à ça, je dirais, parce que la plus grande participation dans le portefeuille de Berkshire Hathaway, c'était dans Apple. Et vous le savez, depuis un an, ça explose tout ça. Lui, il a revendu une partie de ses actions pour 11 milliards de dollars. Il a mis ça dans sa cagnotte. Mais entre-temps, Apple, elle, rachète ses actions aussi. Et donc, les actions qui lui restent valent autant qu'au début. Alors, il s'est dit, mais mon Dieu, c'est merveilleux, ce système-là. Donc, il met ça dans sa petite caisse. Je vous le rappelle, il y a 138 milliards de dollars états-uniens totalement liquides qui seraient mobilisables rapidement en cas de besoin.
Mais donc, si on en a besoin, on peut l'appeler?
Oui, exactement. Il va servir en premier, évidemment. Mais bon, ses actionnaires, ils regardent ça, puis ils se disent, les caisses sont pleines, les actifs valent trop cher, puis les taux d'intérêt sont trop bas. Lui, ça l'incite à ne pas prendre de risques. Donc, il pense qu'il y a une folie actuellement en bourse. Puis, puisque l'aventure, c'est pas sa spécialité, il attend. Alors, il y a 100
ans. Puis il n'a que 87 ans, donc je veux dire ça.
91, je crois. Oui,
91, d'accord. Je crois qu'il fustige, Warren Buffett fustige aussi de ces grands investisseurs qui prennent leur retraite un peu trop tôt. Il avait cité quelqu'un qui, à 103 ans, avait décidé de passer le relais. Il a dit, mais il n'avait que 103 ans. J'oublie, j'ai lu ça, mais c'était hier ou avant-hier.
Alors, ça nous amène au sujet de la semaine.
Allons-y, oui. ESG.
C'est la nouvelle mode en matière de gestion. On vous les a nommés les critères environnementaux pour le E, sociaux, le S, et de gouvernance pour G, ESG, pour faire court. Donc, je dirais, dans les dernières semaines, j'ai lu ça dans le Globe and Mail à Toronto. Il y avait une série d'articles. Ça revenait régulièrement. En fin de semaine, dans le Financial Times de Londres, vous savez, le papier rose. Mais allez voir leur site web, ft.com. Il y a même Gillian Tett, qui est l'éditrice du FT aux États-Unis, qui a un court film de 4 minutes qui explique la folie du ESG. Je lis ça un peu partout. Est-ce que ces critères-là vont parvenir à s'intégrer dans les modes de gestion des entreprises ou vont déterminer les modes d'investissement? Je dirais, seul l'avenir le dira.
Vous semblez un peu sceptique quand même, Louis.
Ouais, je suis suis, ben, je suis pas trop vieux, mais je suis assez vieux pour avoir vu quelques modes passer en gestion. Je peux vous en citer quelques-unes pour mémoire. Là, prenez, par exemple, la gestion par objectif. Dans les années 70 et 80, c'est la folie. On a même ressuscité, à un moment donné, une œuvre de 2500 ans, écrite en 512 avant notre ère, L'art de la guerre de Sun Tzu, qui, à l'époque, on voulait transformer les gestionnaires en guerriers chinois pour prendre des parts de marché. Je pense aussi...
Il y avait aussi le prince de Machiavel. Je me souviens qu'il y avait un certain qui s'appelait Dreher, qui avait écrit dans les années 60-70 un truc, il fallait suivre les préceptes que Machiavel donnait au sujet du prince.
Et manifestement, c'est un effet de mode aussi. Bon, moi, je pense aussi à la recherche de l'excellence de Tom Peters. Il y a eu Jim Collins aussi, From Good to Great, de la performance à l'excellence. Il y a eu les parties prenantes, le capitalisme des stakeholders. L'entreprise, c'est pas juste les actionnaires, mais c'est aussi les clients, les travailleurs, puis plus largement la société. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une espèce de désaffection face au système économique tel qu'il se vit présentement et un peu partout sur la planète. Je sais pas si c'est l'effet du crack de 2008 combiné avec la pandémie. La pandémie, c'est toujours un temps de pause favorable à l'introspection, qui sait. Je saurais dire, mais bon, il serait dommage quand même que une fois que la pandémie serait terminée, qu'on repartirait à surconsommer, peut-être qu'un temps de réflexion, c'est peut-être une bonne idée. Peut-être que le ESG, ça s'insère un peu dans tout ça.
Alors, bon, ça se veut très vertueux, hein, environnement, social et gouvernance. Pas nouveau que les investisseurs ou les capitalistes veulent être gentils et montrer patte blanche, non?
Non, je dirais que ça a une histoire interconnectée avec celle de l'investissement responsable. Puis ça, ça remonte au 17e siècle déjà.
Mon Dieu, c'est vieux.
Les premières formes sont associées au mouvement des Quakers. Vous savez, cette secte fondée par un certain John Wesley. Bon, aux États-Unis, ils refusaient, par exemple, d'investir dans des plantations où s'il y avait de l'esclavagisme. Donc, on investissait sur une base de critères de morale religieuse. Donc, s'il y avait de la souffrance humaine associée avec ça, on touchait pas à ça. Donc, cette idée du mouvement d'investissement éthique se propage à travers les siècles. Selon les différents enjeux sociaux. Je dirais que c'est aux États-Unis, dans les années 20, que ce mouvement-là va s'institutionnaliser, puis pour la première fois, on va avoir des fonds dits éthiques.
Dans les années 20?
Oui, dans les années 20. Le premier fonds auquel on attribue ce mérite, c'était le Pioneer Fund aux États-Unis. Évidemment, exactement. Ils considéraient qu'il y avait certaines activités économiques qui étaient immorales, dont les actions étaient caractérisées par le péché. C'est pour ça qu'on appelait ça des sin stocks en anglais, des actions
pécheresses,
pour ainsi dire. Tout ce qu'il y avait à faire avec la cigarette, l'alcool, les armes, qui en fait sont très payantes, il faut le dire, habituellement, ces secteurs-là.
Demandez à la SAQ ou à la SQDC aussi. On en parlait il y a quelques minutes.
Donc, ces critères-là de ESG, environnement, social, c'est pour les gens, là, les personnes, puis la gouvernance, ben, c'est le profit, mais où va aller le profit? Ça se voulait au départ une réponse pour essayer de moraliser le capitalisme. Ben, vaste programme s'il en est, là. Dans les années 50, les économistes ont développé la notion des externalités. Vous savez, externalités, c'est tout ce qui était non comptabilisé par l'entreprise. Donc, vous faites la pollution, ben, vous rejetez ça dans l'atmosphère, puis c'est aux autres de nettoyer ça. Vous faites du chômage, par exemple, c'est l'État qui ramasse les pots cassés, pour ainsi dire. Donc, ce qu'on appelait les externalités, c'était ce que l'entreprise produisait en pollution, en déchets. Et donc, dans les années 60, on va essayer de remédier à ça. Il y a des communautés religieuses, par exemple, qui achetaient une action ou deux d'Exxon, de General Motors, puis ils s'invitaient à l'Assemblée générale des actionnaires pour poser des questions sur leur pratique de gestion, par exemple.
Et pour empêcher les choses de fonctionner en rond.
Oui, exactement. Et bon, ils ont été, ils ont fait, par exemple, en Afrique du Sud. On considérait que le régime était un peu peu ragoûtant, donc on avait un code, il y a le code Sullivan qui avait été développé aux États-Unis, donc c'est un pasteur noir protestant qui avait dit, ben vous pouvez investir, mais si vous traitez les travailleurs noirs là-bas, c'est très bien. Bon, la réponse des économistes là a été, je dirais, prompte puis non négociable. Au début des années 70, Milton Friedman, prix Nobel d'économie à l'Université de Chicago, a répondu par ce que j'appellerais la bouche de ses canon. Et lui, il a rétorqué que le seul objectif d'une entreprise, c'est de faire des profits. Parce que sinon, si elle commence à s'intéresser, je ne sais pas, à la société dans laquelle elle vit, ben, elle devient,
si elle devient vertueuse, quoi.
Oui, elle devient vertueuse, ben, elle va devenir moins efficace que ses concurrents. Elle va perdre
en fait, ça veut dire que le capitalisme de Milton Friedman est tout à fait amoral. On se fiche complètement de ce que vous appelez les externalités, les dommages collatéraux. Ça, c'est complètement indépendant.
Exactement. Bon, lui va vous répondre que si les actionnaires de ces entreprises-là, dites efficaces, voulaient dépenser leurs dividendes dans des activités philanthropiques, c'était leur décision, mais pas pour une entreprise capitalistique. Bon, c'est devenu, c'est demeuré, je dirais, une espèce de credo intouchable pour la plupart des gestionnaires. Puis, il y a un petit livre qui est sorti en 1998, Cannibals with Forks, qui n'a toujours pas été traduit, mais qu'on pourrait traduire par des cannibales avec des fourchettes. C'est un consultant anglais du nom de John L. Kington qui a publié ça. Il a essayé de codifier les règles de gestion et d'investissement qui seraient moralement acceptables.
Et donc, ça a marché ou pas?
Petit à petit, ça commence à rentrer dans les normes un peu. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous en faire un court résumé, pour ainsi dire. Lui, L. Kington, il voit ce qu'il appelle en anglais un triple bottom line, ou en français, un triple bilan d'une entreprise. C'est la transposition de la notion de développement durable en entreprise par le biais de l'évaluation de la performance de l'entreprise à l'aune de trois piliers qui seraient les personnes, la planète, puis les profits.
Donc, c'est toujours ESG, mais d'une autre façon.
Oui, exactement. Donc, en anglais, ça fait People, Planet, Profit. Donc, d'accord. Vous savez, en français, personne, planète et profit.
Ça marche
donc,
aussi.
Donc, le bilan environnemental, disons, prenez le E dans ESG, c'est la compatibilité entre l'activité de l'entreprise et le maintien des écosystèmes de la planète. Bon, d'accord. On va comptabiliser toutes les activités d'une entreprise et ça va inclure sa production de déchets, sa pollution, puis on va y donner un prix. Donc, pensez à la bourse du carbone, là. On commence à mettre un prix sur la pollution. Donc, on internalise, pour ainsi dire, les externalités. On a dit les externalités, c'était ce qui n'était pas comptabilisé dans l'entreprise. Oui. Ben là, on ramène ça. Donc, vous produisez de la pollution, ben vous allez payer pour ça. Donc, donc, ça donne un coût à tout ça. Personnellement, moi, j'y vois un problème de frontière. Là. Si un pays comme la Chine ne joue pas le jeu, supposons que les pays de l'OCDE deviennent vertueux, puis on devienne tous des Suédois, des Allemands, on est très conscients de notre environnement, mais un pays comme la Chine décide, non, nous, on va continuer à cochonner notre environnement sans avoir à compter ces activités-là.
Bon, en Allemagne, je veux dire, c'est très propre en Allemagne, mais c'est souvent les pays étrangers ou limitrophes qui enfouissent les cochonneries que les Allemands produisent, non?
Il faut le dire aussi, mais un pays comme la Chine, qui jouerait pas le jeu, pour ainsi dire, se retrouve avec un avantage concurrentiel. Mm-hmm. Donc, bon, les tenants de la philosophie ESG vont rétorquer que c'est à ce moment-là que les consommateurs deviennent une arme. Ils vont utiliser leur pouvoir de dépenser pour payer et pour punir les pays et les entreprises délinquants. Et ils vont aussi les punir en bourse, là où ça fait le plus mal. Bon.
Donc ça, c'est l'environnement, bilan social.
Le bilan social, ça, c'est le S. C'est les personnes, ça. Quelles conséquences sociales, l'activité de l'entreprise, pour l'ensemble de ses parties prenantes, là. Donc, il reprend la notion de stakeholders. Les parties prenantes, ça veut dire qu'une entreprise affecte plus que ses clients ou ses actionnaires. Donc, on élargit un peu ça à la société, que ce soit directement ou indirectement, et tous les gens qui doivent vivre avec les décisions d'une entreprise. Donc, ça, c'est les gens, pour ainsi dire. Puis le troisième, c'est la gouvernance économique. Je dirais, c'est le profit. Mais le profit, il faut savoir que avec une bonne gouvernance, on va l'utiliser à bon escient. Mais donc, on voit ici que le profit, c'est pas un vain mot. On cherche pas à réécrire tout 200 ans de performance économique. On reconnaît que c'est nécessaire parce que pour le réinvestissement, c'est important. Donc, je dirais que M. Elkington, le concepteur puis le consultant britannique, il met, lui, l'accent sur, oui, on fait des profits, mais comment la gouvernance d'entreprise va décider par la suite d'allouer ces profits-là.
Donc, vous voyez, il nous reste une minute. Est-ce qu'il y a des exemples de cet ESG?
Oui, Ben, je dirais qu'il y a une entreprise qui suivait plus ou moins cette philosophie-là, c'est Danone en France. Vous savez, la ferme française des yogourts Danone, on les a ici, ils ont aussi l'eau et viande. Ben, le patron, il suivait ça, mais il a été contraint d'abandonner hier, soit dit en passant, une partie de cette philosophie-là, parce que les profits étaient moins bons que ceux de ses concurrents comme Nestlé puis Unilever, et son prix en bourse était tombé de 25 % Donc là, il va vendre sa filiale chinoise pour récupérer du fric. On le voit, c'est des idées qui semblent faire leur chemin. Ces temps-ci, ça semble avoir la faveur un peu, je ne sais pas si c'est un mantra de pandémie, mais est-ce que ça va rester seulement au stade des idées d'un consultant qui aura connu son quart d'heure de célébrité puis qui va ensuite retourner aux oubliettes? Moi, je trouve qu'il lance un bon débat. C'est un beau motif à réflexion. Est-ce que ça va devenir seulement une mode passagère? L'avenir le dira.
Louis Bouchard, merci beaucoup pour cette chronique. Donc, ESG, ça veut dire environnement, social, gouvernance, une nouvelle lubie mode. Ou une préoccupation durable des gestionnaires. Dans une semaine, oui.
Comme toujours.
À venir, être seul vaut mieux qu'être isolé. On vous revient après la pub sur les ondes de Radio VM.